nous allons passer à l'interview de Véronique Moisson, qui est là pour nous parler de son ouvrage « Les voleurs de destin ». Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous pour nous parler de votre ouvrage, mais d'abord j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous. Vous vous présentiez, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture et notamment à l'écriture de ce roman qu'on pourrait classer entre initiatique et fantastique?
Oui, avec une grosse part d'historique aussi, puisque j'ai fait quelques recherches dans des lieux comme Fontevraud. Alors ce qui m'a amené à l'écriture, c'est la peinture. Difficile à comprendre, mais la première façon que j'ai eue de m'exprimer en étant jeune, c'était la peinture, pour les gestes, pour la couleur, pour des ambiances, justement pour des ambiances qui nous faisaient décoller un peu du sol. En exposant, mes premières expositions, je les ai faites à l'âge de 20 ans, et bien les spectateurs venaient me demander des explications sur les tableaux, et des explications, c'est des mots. Alors j'ai commencé à écrire des nouvelles sur l'art, des anecdotes, des pensées qui me venaient pour essayer d'expliquer comment je faisais mes tableaux, qu'est-ce que c'était ces mouvements tournants et ces drôles de personnages suspendus. Donc j'ai écrit des nouvelles sur l'art. Regarde, c'était mon premier recueil de nouvelles. Et puis, toujours sur l'art, j'ai écrit un autre roman qui s'appelle Le passage de Gabriel, qui parlait du monde de l'art, des femmes et de l'homosexualité. Absolument pas de fantastique, sauf quand même à chaque fois quand on touche à l'art. Et puis j'ai écrit beaucoup d'autres choses, une pièce de théâtre, des choses pour les enfants. Et puis ce roman qui là, parce que j'aime l'histoire, est parti de faits historiques, de personnages historiques qui m'ont intriguée pour pouvoir construire une histoire d'aujourd'hui.
C'était important de vous imprégner d'un lieu historique comme Fontevraud qui se trouve dans la région?
Oui, c'est très important. Je trouve que les pierres parlent. Quand je suis arrivée en Touraine, je suis née dans le nord de la France. Peut-être un an après mon arrivée, des personnes très sympathiques m'ont demandé d'être présidente d'un office de tourisme, celui d'Azay-le-Rideau. Je connaissais presque pas la région, mais j'avais très très envie de m'y fondre et de découvrir des lieux. Donc je les ai parcourus, ces lieux. On a refait des guides et puis j'ai vraiment adoré la Touraine, à la fois pour ses vieilles pierres et ses jardins. Ces pierres qui nous parlent d'histoire me font rêver aussi. Et l'histoire ne dit jamais tout. J'ai eu envie d'aller refouiller dans ces lieux que j'ai aimés. Et là, j'ai fouillé à Fontevraud. J'ai eu la chance de travailler avec la documentaliste, qui est maintenant en retraite, mais qui m'a ressorti des ouvrages. Quand je l'interrogeais sur un passage ou sur un lieu en particulier, elle pouvait m'y emmener et m'expliquer des choses. Voilà, elle m'a aussi ressorti des portraits de personnages de l'époque. Louise de Bourbon, notamment, qui m'a fait écrire une partie de cette histoire. Alors le portrait de Louise de Bourbon, c'est quelque chose d'étrange. Vers l'âge de 17-18 ans, c'était une jeune fille magnifique, avec des joues rondes, vraiment une belle jeune fille. Quand on arrive dans la salle capitulaire, qu'on voit le portrait de Louise de Bourbon de profil, avec son capuchon de nonne, elle a un visage spectral. Elle est rentrée à l'abbaye de Fontevraud à quelques mois, et elle en est ressortie après 70 ans. Voilà comment le lieu transforme les gens. Alors je lui ai inventé quelque chose d'étrange.
Vous avez eu des remarques justement là-dessus, d'avoir transformé une partie de l'histoire de France en quelque chose de fantastique?
Alors je n'ai eu aucune remarque, mais je préviens toujours que j'ai un imaginaire très large et que les personnes n'ont sans doute pas vécu ce que je dis. Maintenant, on ne sait pas tout de leur vie. Donc effectivement, lui avoir inventé une naissance dans les souterrains de Fontevraud, c'est peut-être osé, mais... Je pense que des choses comme ça se sont vraiment produites.
Jusqu'où est-ce que on peut trouver des véracités historiques dans le roman Les voleurs de destin? Il y en a quand même, ou est-ce que c'est simplement une trame qui vous a permis de travailler, de créer votre histoire?
Il n'y a pas vraiment d'événements historiques. Je me suis intéressée aux lieux, à la configuration des lieux, puisque Fontevraud a vraiment évolué à travers le temps pour raconter des lieux qui existaient à l'époque où ça existait. Il y a aussi l'histoire d'un médecin qui habitait au château de Champ d'Oiseau, qui n'est pas très loin. Ça a existé. Maintenant qu'il a été le médecin de Louise de Bourbon et qu'il ait eu une aventure avec elle, là non, j'ai dépassé un peu les limites de l'histoire. Mais je me suis intéressée vraiment au lieu, à la chapelle des morts, son rôle. Il faut savoir que les religieuses là-bas, quand elles mouraient, c'était les moines qui allaient les enterrer parce qu'elles ne pouvaient ni dire la messe, ni sortir des lieux. Voilà, et elles étaient enterrées dans le cimetière à côté de la lanterne des morts. Je me suis intéressée à ce lieu aussi, à quoi il servait, ce qu'il pouvait bien y avoir dedans. Mais on ne m'en a pas dit plus, alors il a bien fallu que j'invente.
Oui, les gens que vous avez rencontrés ont gardé un certain secret par goût ou par manque d'informations ? Est-ce qu'il y a un secret qui demeure sur tout ce qui s'est passé là-bas et...
Non, on ne sait pas. L'abbaye de Fontevraud, c'était une abbaye royale. Donc c'était des dames d'un certain rang, hein, la famille de Bourbon ou d'autres. Et on ne sait pas ce qu'elles ont vécu dans leur intimité. Personne ne le dit. Comment voulez-vous savoir ?
Et donc c'est là que votre travail d'écrivain prend toute son ampleur, puisque ça vous permet de développer cette histoire. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer ces deux personnages, ces deux garçons qui sont Anaël et Caliel ?
Alors ça, c'est j'aime beaucoup les jeunes adultes, les adolescents, pour cette période où ils rêvent de leur vie, où ils essaient de la construire. Donc je me suis basée sur ce que je connaissais de l'adolescence. J'ai moi-même des enfants qui ont de 18 à 24 ans. En essayant de rechercher ce qui pouvait être important pour ces jeunes, je me suis dit que ce qui était important, c'est de connaître son passé. Connaître son passé pour pouvoir construire l'avenir. Et s'il y a une rupture, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, une méconnaissance, qui sont nos parents, ce qu'on a vécu, on ne peut pas aller vers l'avenir. Et donc c'est une façon de remettre dans cette situation réelle que j'ai eue en enlevant les lignes de leurs mains. Voilà, c'est une symbolique.
C'est terrible. Enfin, c'est terrible. Ça fait bizarre quand même de déjà pas avoir de passé orphelin, mm-hmm. et après pas avoir de ligne de la main, c'est presque ne pas avoir d'avenir.
Voilà, c'est un symbole. C'est simplement un symbole, enlever les lignes de la main. Ce symbole qui est vraiment très gênant parce que physique, parce qu'on le voit, parce qu'on se rappelle d'une douleur et on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, la douleur, elle est physique, mais elle est aussi bien sûr dans le cœur. Et ces deux jeunes gens, au moment de leur adolescence, au moment de leur période étudiante, vont avoir envie de savoir. Heureusement, ils vont rencontrer un mage ou l'amour qui vont leur permettre de les guider parce qu'on a l'impression que seuls, ils ne peuvent pas s'en sortir.
Des rencontres toujours amicales, gentilles, avec des personnes de confiance. C'est une situation bon enfant, en fait, dans un roman fantastique. Souvent, il y a toujours quelqu'un qui incarne le mal, etc. Et là, ça se retrouve presque pas, en fait, dans votre histoire.
Oui, vous êtes vraiment spécialisé dans le fantastique. Moi, je suis entre le rêve et la réalité, mais pas forcément les choses très méchantes, diaboliques, hyper transformées. Non, les seuls personnages méchants, ce sont les enfants que Louise de Bourbon a mis au monde. Et ils sont devenus méchants. On peut même le comprendre, ils sont devenus méchants parce qu'on leur a fait vivre dans leur enfance. Ils ont eu cette furie, ils ont été enfermés dans des souterrains et eux, ils avaient envie de vivre à l'extérieur, de construire leur vie. Alors quand ils ont pu choisir leur vie en volant celle des autres, là ils l'ont fait. Oui, effectivement, les autres personnages sont plutôt bon enfant. Quand même, cette religieuse qui passe d'une vie à l'autre, qui est presque éternelle, qui se convertit à l'amour, c'est... Oui, c'est bon enfant si on veut, elle n'est pas monstrueuse.
Je vais vous proposer une pause musicale. Vous êtes venu donc avec quelques CD, dont celui qu'on est en train d'écouter en fond, alors en très très fond lointain, c'est la bande-son des Triplettes de Belleville. Et en pause musicale, vous avez choisi un titre de John Coltrane qui s'intitule My Favorite Things. Pourquoi ce titre-là ?
Alors j'aime beaucoup la musique, je sais très très mal en jouer, donc je m'abstiens. Et dans ce livre, il y a un des personnages qui vit un enfermement, donc c'est Anaël, celui qui vit à Sarlat. Il vit un enfermement parce qu'il n'arrive pas à communiquer avec les autres. Et il se réfugie dans les souterrains de sa maison où il y a une jolie pièce en ogive et il joue du saxo. Voilà, le saxo, ça l'emporte, ça lui permet de communiquer.
Donc nous allons écouter une partie du titre My Favorite Things puisqu'il dure 13 minutes 41 normalement. Et après, nous reviendrons avec Véronique Moisson qui nous reparlera de son ouvrage Les Voleurs de Destin qui est sorti chez Villèle Éditions.